Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une émission un peu particulière que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui une artiste que j'aime beaucoup comme tant et tant de Français et qui a longtemps entretenu un lien spécial avec notre radio. C'est Sylvie Vartan. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ici à l'occasion de la sortie d'un livre sur votre maman. Nous allons avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure, bien entendu. Mais vous allez aussi nous parler de ce pays qui est le vôtre, qui est la Bulgarie. C'est donc autour de vous que nous avons construit cette émission consacrée à l'histoire bulgare. Un grand spécialiste de la Bulgarie nous a rejoint. C'est Bernard Lory qui enseigne au Langso. Et pour commencer, nous allons revivre un moment unique de l'histoire de ce pays. C'est le soulèvement de la Bulgarie contre l'Empire ottoman dans le dernier quart du 19e siècle.
Et tout à l'heure, Franck, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Enora sur l'origine des expressions de théâtre côté cour et côté jardin.
Ce qui, le matin même de la cérémonie des Molières, est assez approprié, je crois. Eh bien, nous allons frapper les trois coups. The audience is listening.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Longtemps, l'Empire ottoman a terrifié l'Europe chrétienne dont il menaçait les frontières jusqu'au siège de Vienne en 1683. Nous en parlions il y a quelques semaines. Et puis est venu le temps du reflux, l'immense puissance des sultans confrontés à l'Autriche, à la Russie, a fini par se fatiguer. Son territoire, ce territoire gigantesque qui reprenait quasiment les anciennes limites de l'Empire romain, ce territoire a fait les frais d'un lent grignotage, ce qui a ranimé l'espoir de nombreux peuples chrétiens passés sous le joug ottoman. Parmi ceux-là, les Bulgares ont un sérieux désavantage. Leur territoire est situé tout près, trop près d'Istanbul, la grandiose capitale de l'Empire. Il n'empêche, la conscience nationale bulgare va se réveiller au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. De génération en génération, les Bulgares se prennent à rêver à un mouvement de libération. Un mouvement un petit peu timide au départ, bien entendu. Et puis voici qu'en 1875, une insurrection en Bosnie se présente comme l'occasion à saisir. D'un coup, les révolutionnaires bulgares se sentent pousser des ailes. C'est le moment pour eux de soulever tout un peuple. C'est à la fois depuis la Roumanie voisine et au cœur même du territoire bulgare qu'agissent les auteurs d'un véritable plan d'insurrection. Les leaders révolutionnaires veulent agir vite et bien. Ils décident de diviser le territoire bulgare en 4 districts. Alors, encore faut-il anticiper les événements, il faut établir une logistique, il faut tout organiser, il faut trouver les relais fiables, et tout ça dans la plus totale clandestinité. L'une des rencontres secrètes a lieu en avril 1876, dans un bois au cœur du 4e district. Il y a une sorte d'assemblée qui se trouve là et qui va travailler à l'insurrection à venir. Forcément, des taupes à la solde des Turcs se sont glissées parmi les révolutionnaires et les autorités ottomanes ne tardent pas à être mises au courant de ce qui se trame dans leur dos. Il n'y a plus de temps à perdre, il va même falloir avancer les choses. L'insurrection est lancée dès le 2 mai 1876 dans une petite ville qui se trouve à une centaine de kilomètres de Sofia. Ivan Ilchev précise: des courriers à cheval vont communiquer la nouvelle au comité des autres régions, dans le style héroïque de l'époque. Les lettres qu'ils transportent ne sont pas écrites avec de l'encre, mais avec le sang des gendarmes tués. Plusieurs villes, pas mal de villages se soulèvent déjà, mais très vite il est évident que les Bulgares ne vont pas pouvoir faire le poids dans le combat qui vient de s'engager. Les insurgés peinent à communiquer entre eux, leur anticipation a été insuffisante. Depuis longtemps, les autorités ottomanes n'ont pas été dupes. Évidemment, partout la population réagit de manière très inégale. Quant à l'armement des insurgés, disons les choses, il est risible en comparaison de la puissance de feu ottomane. Les insurgés étaient munis d'armes blanches, raconte Ivan Ilchev. Les quelques revolvers et fusils disponibles étaient d'un modèle ancien, les munitions étaient en quantité insuffisante, la poudre de mauvaise qualité. À la première pluie, les armes à feu devenaient inutilisables, l'artillerie était inexistante. Les habitants de certaines localités tentent d'y remédier en construisant des canons à l'aide de fûts en bois de cerisier, cerclés de lames de fer. La plupart éclatent au premier tir. Il y a quelque chose de, à la fois d'héroïque, de dérisoire, de terrifiant dans cette impréparation qui ne peut que mener au désastre. Pour les Bulgares, la seule planche de salut, ce serait que des étrangers, des ennemis de l'Empire ottoman interviennent dans le conflit. Seulement, cette aide-là ne vient pas. Les événements vont tourner à la catastrophe. La plupart des foyers d'insurrection sont balayés en une vingtaine de jours. Des militaires au service des Ottomans, ils s'appellent les Bachibouzouk, ça fait penser évidemment au capitaine Haddock, les Bachibouzouk sont particulièrement efficaces et les règlements de compte vont bientôt se multiplier dans certaines régions. La répression devient terrible, la cruauté de la vengeance des Turcs est terrible. Il y a des lieux qui sont carrément ratissés, des populations entières tuées, les femmes violées, etc. Dans le village de Batak, plusieurs milliers de personnes, dont pas mal de femmes et d'enfants, sont tuées au cours de scènes effroyables. L'église de la localité est brûlée avec beaucoup de monde à l'intérieur. Christo Botev, qui est un des chefs insurgés, va tenter bientôt un dernier mouvement militaire, mais ce qu'il trouve au bout du chemin, c'est simplement la mort. On estime que près de 15 000, peut-être 30 000 Bulgares sont victimes de cette laborieuse tentative de révolte, même si les chiffres sont depuis très discutés. On a beaucoup de désaccords entre les historiens à ce propos. Selon toutes les apparences, en fait, cette insurrection n'aura été qu'un feu de paille. L'échec est sans appel. L'Empire ottoman a prouvé sa supériorité. Les insurgés bulgares ont prouvé de leur côté leur faiblesse manifeste. Et pourtant, une série de rebondissements s'apprête à changer la donne.
Sur Europe 1 du cœur, le mystère des voix bulgares. Aujourd'hui, c'est l'histoire de la Bulgarie que vous raconte Franck Ferrand et plus particulièrement la Bulgarie qui se trouve sur la voie de son indépendance. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, nous sommes en 1876, en Bulgarie. La Bulgarie se trouve sur la route de son indépendance, mais ce n'est pas simple. Hein,
non, c'est particulièrement difficile. Comme Richard Crampton le souligne, quelles que fussent ses faiblesses, le soulèvement avait montré au monde qu'il existait en Bulgarie un désir de liberté politique pour lequel beaucoup étaient prêts à sacrifier leur vie. La Bulgarie veut son indépendance. Ces insurgés bulgares diffusent le récit de ce qu'ils ont subi au printemps 1876. Et rapidement, dans toute l'Europe, c'est une véritable vague d'émotions qui s'empare des esprits éclairés, des figures politiques, des journalistes. S'en font les relais scandalisés. Georges Castellan et Marie Vrinat-Nikolov précisent: une partie des journaux russes décrivit les massacres perpétrés par les soldats du sultan et réclama de son gouvernement qu'il donnât une leçon aux fanatiques musulmans. En France, le Figaro publia un reportage d'Ivan de Vestine, qui avait visité le village de Perouchtitsa. Je sais pas comment on dit ça, hein. On va essayer. Perouchtitsa, entièrement rasé par les Bachibouzouk. Plusieurs pays vont dès lors se mobiliser. La pression augmente pour les Ottomans quant à leur façon de gérer les conflits au sein des Balkans. Et finalement, une conférence internationale est organisée à la fin de l'année en 1876, à Istanbul, c'est-à-dire encore sous domination turque, bien entendu. On discute, on propose, on suggère, mais rien de probant ne ressort de tout cela. Il faut dire que les intérêts, bien sûr, des uns et des autres sont beaucoup trop divergents. Alors la Russie décide d'agir de son côté et elle déclare, une fois de plus, serait-on tenté de dire, elle déclare la guerre à l'Empire ottoman à la fin d'avril 1877. Plusieurs milliers de Bulgares se trouvent à ce moment-là dans les rangs de l'armée russe. Il y a une solidarité slave, bien entendu, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. L'armée russe va faire une avancée décisive vers le sud et au bout de même pas un an, la victoire est sans appel. L'Empire ottoman doit accepter un traité de paix, le traité de San Stefano, qui est signé début 78. Ce qui veut dire que pour la Bulgarie, si peu de temps après l'insurrection de 1876 qui avait été rapidement matée, tout ça ressemble quand même à un miracle. L'accord prévoit entre autres une constitution d'un État, d'une vaste principauté bulgare autonome, qui dispose à la fois d'un accès à la mer Noire et à la mer Égée. Inutile de vous dire que les Russes voient leur intérêt dans cette affaire, bien entendu leur intérêt stratégique. Un nouveau coup de théâtre, cet accord est difficile à accepter pour beaucoup et d'autres peuples balkaniques s'émeuvent de la création de cette entité bulgare, une entité qui aura la main sur des territoires âprement disputés. Quant à certaines puissances européennes, et je pense au Royaume-Uni bien entendu, elles voient d'un mauvais œil ce qu'elles perçoivent comme une dangereuse progression de l'influence russe dans cette région stratégique entre toutes. Alors, évidemment, pendant ce temps, la tension international ne fait qu'augmenter et on décide de réunir à Berlin un nouveau congrès pour essayer de trouver une solution générale. Ce congrès a lieu à l'été 1878 et il aboutit à une désillusion pour les Bulgares qui n'ont d'ailleurs pas été invités à discuter à la table. C'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va gérer ces affaires, on va décider de l'avenir des Bulgares, mais on n'a pas jugé utile de les inviter. Leur territoire est réduit, l'accès à la mer Égée est supprimé et surtout, on décide de la création de deux entités distinctes, une principauté bulgare donc, relativement autonome vis-à-vis des Turcs, et puis une province nommée la Roumélie orientale, qui elle sera beaucoup plus étroitement liée à l'Empire ottoman. Bien entendu, c'est là un compromis bancal qui visait surtout à tempérer les succès russes. C'était les Russes qui étaient visés dans cette affaire, évidemment pas les Bulgares. Et au sein même du peuple bulgare, nombreux sont ceux qui refusent de voir le fin mot de l'histoire dans ce traité de Berlin. Pour l'instant, il faut s'organiser, solidifier les territoires constitués. Au nord, dans la principauté de Bulgarie, une assemblée met en place une monarchie constitutionnelle. Et au printemps 79, Alexandre de Battenberg, il est tout jeune, il a 22 ans, il est de la famille de l'impératrice de Russie, il est apparenté à la famille d'Angleterre, d'une façon générale à beaucoup de familles régnantes en Europe. Cet Alexandre est désigné comme prince, il monte sur le trône sous le nom d'Alexandre Ier. Et très vite, la principauté va connaître un certain nombre de tensions politiques. La constitution est mise entre parenthèses entre 81 et 84. Et au sud, vous savez, dans cette petite province de Roumélie orientale, l'enjeu pour les Bulgares, c'est de s'affirmer face aux minorités grecques et musulmanes. Quoi qu'il en soit, l'occasion attendue pour une réunification des deux entités finit par se profiler. La Russie, l'Autriche, l'Allemagne sont à peu près d'accord. Et par ailleurs, il y a des mouvements qui s'organisent, qui font progresser cette idée. L'inévitable conclusion se profile à la fin de l'année 1885. Des foules se rassemblent, assiègent le gouvernorat de Roumélie orientale à Plovdiv, qui est la capitale. Et le gouverneur ne se montre pas hostile aux appels à la réunion des Bulgares. Ivan Ilchev le raconte. Les gardes du service de sécurité se rendent sans opposer la moindre résistance. Le gouverneur général, au courant de l'action depuis la veille, au lieu d'user de son droit de demander de l'aide de l'armée turque, préfère se mettre au lit et passer une bonne nuit de sommeil. Pendant que la milice exaltée et les paysans procèdent à son arrestation le lendemain, il ne cesse de répéter « Moi aussi je suis bulgare et je suis pour la réunification ». Le changement de pouvoir s'opère sans faire pratiquement de victimes. Un gouvernement provisoire est constitué. Et très vite, après avoir un petit peu tergiversé, Alexandre Ier rejoint la Roumélie orientale. De facto, la réunion semble réalisée. Reste à savoir maintenant comment vont réagir tous les voisins bien sourcilleux de cette principauté agrandie.
Et jusqu'à 15h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de la Bulgarie. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Je vous rappelle que Franck Ferrand reçoit cet après-midi Sylvie Vertan et que vous pouvez nous suivre en vidéo sur Europe 1.fr.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites vivre l'indépendance de la Bulgarie qui a commencé en 1876. Alors pour l'instant, tout a l'air de bien se passer, hein, la réunification est réalisée.
C'est-à-dire qu'on a réunifié la principauté de Bulgarie avec la Roumélie orientale au sud, mais vous l'aurez bien compris, tout le monde n'est pas enchanté de cette réunification. Alors, paradoxalement, ce sont les Ottomans qui vont s'y opposer le moins. Ils ont été humiliés dans cette affaire, mais ils sont surtout soucieux que la situation ne dégénère pas. Les vrais ennemis de la question, ce sont les grandes puissances qui sont très divisées là-dessus et qui décident de réunir une conférence supplémentaire. On l'a dit, le 19e siècle aura été le siècle des grandes conférences diplomatiques, mais voyez à quel rythme elles se succèdent. Sauf que là, nouveau coup de théâtre, la Serbie est voisine de la Bulgarie et elle voit d'un mauvais œil l'émergence de cette nouvelle puissance. Elle prend peur et elle déclare la guerre à la Serbie. Donc on est en novembre 1885. Sur le papier, les Serbes possèdent une armée incroyablement plus nombreuse et beaucoup plus rompue au combat que celle des Bulgares. Et alors, évidemment, les Bulgares ne sont pas décidés à se laisser faire, mais nombreux sont ceux qui ne donnent pas cher de leur peau. En vérité, quand les troupes serbes entrent sur le territoire bulgare, c'est pour y essuyer une série de revers assez terribles. Et c'est finalement l'Autriche soucieuse du sort de la Serbie, qui va siffler la fin des hostilités entre les deux nations slaves. Les combats cessent, la victoire bulgare marque les esprits et la diplomatie prend le relais. On aboutira en mars 86 à des accords. La Serbie se résigne à reconnaître son grand voisin, mais il est évident que c'est un coup de canif terrible au contrat. C'est la fin de l'unité rêvée des Slaves. Vous savez, quand j'étais au lycée, on parlait toujours des crises balkaniques et de la complexité des affaires des Balkans. Eh bien, à travers ce simple épisode de la route de l'indépendance pour la Bulgarie, vous voyez à quel point ces Balkans étaient véritablement une poudrière. Quant à l'Empire ottoman, il se résigne à placer officiellement Alexandre Ier à la tête de sa fameuse Roumélie orientale. Georges Castellan et Marie Ivrina Tnokolov notent « La réunification était faite et la Bulgarie devenait, après la Roumanie, le plus grand des pays balkaniques avec une superficie de plus de 96 000 km² et 3 millions d'habitants. » Seulement voilà, malgré cette réussite, la principauté, qui toujours est officiellement rattachée à l'Empire ottoman quand même, paraît bien seule au milieu d'un océan d'hostilité avec des défis insurmontables dans le domaine des transports. Il n'y a pas de communication dans ce pays. Problème dans l'agriculture, et quoi dire de l'industrie bien entendu. Vous avez plusieurs tendances politiques qui vont s'affronter. Dès 1886, un coup d'État renverse Alexandre Ier, qui est remplacé par un nouveau prince, Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, qui devient Ferdinand Ier. C'est le début, alors là, d'une suite d'événements politiques complexes que je ne vais sûrement pas détailler. Précisons simplement que le pays connaît à partir de cette fin du 19e siècle des phases de modernisation assez extraordinaires. Sur le plan diplomatique, plusieurs affaires vont agiter le jeune État. Les relations avec la Russie sont source de nombreux débats. Et par ailleurs, la question des populations bulgares vivant hors de la principauté est extrêmement sensible dans ces Balkans tellement éruptifs. La Macédoine, notamment, est un objet de rivalité entre Bulgares, Serbes, Grecs et Ottomans, ces derniers étant ceux qui tiennent encore à cette époque le territoire sous tension. Au début du XXe siècle, même si la Bulgarie semble se construire, c'est incontestable, tous les observateurs nous le disent, sur un plan économique en tout cas, son avenir se révèle lourde menace. La première de ces menaces, c'est le risque de guerre entre les États balkaniques eux-mêmes, tandis que les relations entre les grandes puissances européennes sont elles aussi porteuses de dangers. Il ne faudrait pas, on le sait, une trop grosse étincelle pour que cette région s'embrase. Bon, l'étincelle, on la connaît, hein, ce sera l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914. Mais on a frôlé cette guerre un certain nombre de fois, à plusieurs reprises. Dans ce contexte tellement délicat, la Bulgarie va passer une étape décisive dans son processus de réalisation nationale. En effet, je vous l'ai dit, la principauté est toujours théoriquement rattachée au sultan de Constantinople, d'Istanbul. Mais à la faveur des circonstances, dont de graves troubles politiques à Istanbul, la Bulgarie saute le pas et en octobre 1908, le pouvoir déclare son indépendance. Ferdinand Ier n'est plus prince maintenant de Bulgarie, il devient le tsar des Bulgares. Bien entendu que cette proclamation va faire beaucoup de remous dans les chancelleries. L'Empire ottoman, après quelques discussions, est mis devant le fait accompli. Il accepte la situation, tout comme les principaux États d'Europe qui vont reconnaître le nouvel État pendant tout le cours de l'année 1909, une année extraordinaire, décisive dans l'histoire de la Bulgarie. Donc, la route vers l'indépendance, si vous voulez, a été parcourue. Trois décennies quand même de lutte pour y arriver. Une page d'histoire se tourne, un nouveau siècle commence. Mais vous savez que ce siècle-là, pour la Bulgarie, va se révéler terriblement difficile. Alors Bernard Lory et Sylvie Vartan, je suis très heureux que vous soyez là avec nous pour parler de cette Bulgarie. Nous avons vu comment le pays a acquis son indépendance. Nous allons voir maintenant par quelles terribles difficultés il va lui falloir passer.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Garros.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de la Bulgarie avec vos invités. Franck Ferrand, vous recevez Bernard Lory, historien spécialiste des Balkans, professeur des universités à l'Institut national des langues et civilisations orientales, auteur de l'Europe balkanique de 1945 à nos jours, paru chez Ellipse, et Sylvie Vartan, chanteuse née à Iskretz, Bulgarie.
Iskretz, c'est dans les Balkans, Sylvie Vartan.
Oui. C'est à 60 kilomètres de Sofia.
Est-ce que cette histoire de l'indépendance, de la longue lutte du peuple bulgare pour acquérir d'abord son autonomie puis son indépendance à la fin du 19e siècle, est-ce que ça fait partie de la mémoire des Bulgares? Est-ce qu'on vous racontait ça quand vous étiez petite?
Non, honnêtement non, parce que la vie quotidienne était tellement dramatique, en fait tout était focalisé sur la survie.
Alors, on va venir bien entendu à cette période de
vous n'avez pas encore
cette période communiste
abordé,
et stalinienne bien entendu, mais avant cela, il faut dire que vous avez tourné dans un film tiré de l'œuvre d'Ivan Vazov, ça il faut le dire, qui est le grand auteur bulgare bien
ça
sûr.
Ça étonne monsieur Lory. Oui, j'avoue.
Vous étiez toute petite en fait.
Hein. J'avais 6 ans.
Oui.
Et mon père était ami avec le réalisateur et ce film, tiré donc de l'œuvre qui s'appelle « Sous le joug », en traduction littérale, Podigoto, que Monsieur Lory connaît certainement, puisqu'Ivan Vazov est un auteur bulgare qui est très, très prisé, très aimé. C'est peut-être leur Victor Hugo quelque part, c'est ce qu'ils disent en tous les cas, très fièrement.
Ça raconte justement les souffrances en quelque sorte de la Bulgarie du temps de
C'est ça, d'un village, et j'ai tourné à Kuprichtica. Et on m'a grimé. Je faisais partie d'une classe dans ce petit village qui était sous domination turque évidemment. Et donc j'ai tourné, je sais pas, très peu de temps, mais pour moi c'était le inespéré. J'avais l'impression de tourner autant n'emporte le vent, quoi. C'était extraordinaire.
C'était la vie du petit village sous le joug ottoman.
Voilà.
En fait,
et d'ailleurs ce petit village de Kuprichtica. À beaucoup de maisons qui sont restées intactes comme du temps de l'occupation encore. Donc c'est pour ça que le tournage a eu lieu là-bas.
Je vous remercie beaucoup de faire cette émission en français parce que je dois révéler à nos auditeurs qu'au tout début, quand je suis entré dans le studio, c'était en grande conversation avec Bernard Lory et que c'était une conversation en bulgare. Bien
je voulais checker pour voir s'il parlait le bulgare.
Voilà. Vous avez été rassuré.
Tout à fait.
Moi, je ne l'ai pas été parce que je ne comprenais rien à ce que, ce que vous racontiez. Mais néanmoins, je me suis dit qu'au moins, nous serions au cœur de l'histoire bulgare.
C'est vrai.
Il n'y avait aucun doute sur la question. Alors, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, c'était en octobre 2014, j'ai eu l'honneur de recevoir dans ce studio le roi Siméon II de Bulgarie et nous avons évidemment parlé de ces querelles dynastiques qui avaient amené sa famille au pouvoir. En fait, on est en 1908, juste avant la reconnaissance internationale, en 1908, quand le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg devient le tsar Ferdinand. C'est comme ça que ça s'est passé, Bernard Lory.
Oui, alors on est un peu surpris du titre de tsar, qu'en général on réserve à la Russie, Mais il faut savoir que les souverains de la Bulgarie du Moyen-Âge portaient ce titre avant qu'il n'y ait eu une Russie.
Tsar, ça veut dire César, tout simplement, comme Kaiser en allemand. Hein,
exactement.
C'est ça. Donc,
exactement.
C'est l'équivalent d'empereur, d'une certaine manière.
Oui. Oui, oui.
Alors, quelle a été la... Comment dirais-je? Quel a été le rôle de cette Bulgarie dans les tensions qui ont conduit à la Première Guerre mondiale, Bernard Lory? On est au cœur des Balkans, là, bien entendu. Hein.
Alors, le tsar Ferdinand, donc le grand-père de Siméon de Saxe-Cobourg, a joué un rôle très important dans les deux guerres qui précèdent la Première Guerre mondiale. Pour les Balkans, en fait, il y a une seule période qui va de 1912 à 1918, où il y a trois guerres très proches l'une de l'autre, qui se succèdent et qui se poursuivent, alors qu'en Europe, on n'a connu qu'un seul conflit, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre balkanique est une coalition des quatre pays indépendants, Bulgarie, Serbie, Monténégro et Grèce, contre l'Empire ottoman. Les coalisés remportent des victoires écrasantes sur tous les fronts, mais se pose la question du partage des territoires ottomans entre les coalisés.
Eh oui, c'est-à-dire que la grande dépouille de l'homme malade de l'Europe, hein, cette grande dépouille ottomane, va faire l'objet d'un véritable charcutage. Chacun veut sa part, bien entendu. Et la Bulgarie dans tout ça?
Alors la Bulgarie a de très grandes ambitions, puisqu'elle se réfère aux anciennes frontières du traité de San Stefano en réclamant pratiquement toute la Macédoine,
eh oui.
Ce que contestent les Grecs, ce que contestent les Serbes.
Les Serbes aussi, oui.
Et puis il ne faut pas oublier que tout d'un coup, les grandes puissances disent « et les Albanais ». Donc il y a un facteur supplémentaire qui est introduit par la diplomatie internationale en stipulant qu'il faut un territoire national pour les Albanais aussi.
Nous parlerons de l'Albanie à la rentrée prochaine. Ça va faire partie de nos grands sujets et j'aurai l'occasion d'en parler à nos auditeurs en temps utile. Alors, après Ferdinand, c'est son fils Boris.
Mais quand même, que Ferdinand mène son pays au désastre dans la deuxième guerre balkanique en attaquant la Serbie et la Grèce. Et donc, en se faisant battre de façon cinglante.
À plat de couture, donc il est obligé de...
Et il lance la Bulgarie dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire ottoman, ce qui est quand même très paradoxal de la part de la Bulgarie.
Oui, c'était tant battu contre les Turcs. Hein.
Et ça mène la Bulgarie une deuxième fois à la catastrophe militaire. Donc en septembre 1918, la Bulgarie est la première puissance centrale à demander la paix. Et la fin de la Première Guerre mondiale s'est en fait jouée sur le front balkanique et pas du tout sur le front français, comme on se l'imagine trop souvent chez nous.
C'est très important de le dire, c'est très intéressant. Là-bas, on en est très conscient.
Oui, oui, certainement.
Alors, que va faire le tsar Boris pendant son règne?
Alors, le malheureux, il prend le pouvoir dans un contexte insurrectionnel. Son père Ferdinand est chassé du pays, mais il arrive à préserver la dynastie malgré tout. C'est un jeune homme assez modeste et secret, donc il est très difficile de savoir ce qu'il pense véritablement. Et les historiens en discutent beaucoup, mais on peut observer sa politique. Je veux dire, si on ne sait pas ce qu'il pense, au moins on peut savoir ce qu'il fait.
Oui, voilà.
Et il a géré un pays très agité par des attentats nombreux. Je veux dire, on s'assassine tous les jours dans les rues de Sofia au début des années 20. Il y a un attentat particulièrement spectaculaire en 1925, quand la cathédrale de Sofia est dynamitée au moment de l'enterrement d'un général. C'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Ouais. Et petit à petit, Boris prend de l'assurance et va rassembler les pouvoirs entre ses mains jusqu'à mener un régime dictatorial personnel à la veille de la Deuxième Guerre mondiale.
Or, et c'est peut-être la raison, c'est la réponse à cette question que m'ont posé pas mal de personnes, sachant que nous allions faire cette émission sur la Bulgarie. On me dit, mais c'est vrai, on ne parle jamais de la Bulgarie. La Bulgarie n'est pas connue en France. Et pour cause, puisqu'elle a été aux côtés donc, de l'Axe pendant la Première Guerre mondiale, elle va s'y retrouver au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, en 1941 en fait. Hein.
Ce qui en fait notre adversaire dans les deux guerres mondiales successivement, alors qu'il n'y a pas de contentieux entre la France et la Bulgarie réellement.
Vous aurez remarqué que je mène tout ça à la hussarde, mais parce que je veux en arriver à la date de 1944, à la libération de l'Europe. En l'occurrence, c'est l'armée rouge qui entre en Bulgarie. Faut-il parler d'une libération? Vous avez déjà la réponse.
Europe. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sylvie Vartan sur Europe 1 et nous n'avons pas que la voix de Sylvie Vartan aujourd'hui puisqu'elle est votre invitée, Franck Ferrand. Puis nous parlons de l'histoire de la Bulgarie jusqu'à 15h avec Bernard Laurie, historien spécialiste des Balkans, auteur de l'Europe balkanique de 1945 à nos jours, et c'est la partie de l'histoire du pays qui va nous intéresser maintenant. Et Sylvie Vartan qui est auteur de Maman en collaboration avec Lionel Duroy et paru chez Ixo.
Un livre, Maman, dans lequel vous racontez beaucoup de souvenirs, bien entendu. C'est une déclaration d'amour extraordinaire à votre mère, dont vous avez eu l'occasion de parler déjà dans pas mal de médias. Sylvie Vartan, vous n'avez pas insisté toujours sur cet aspect historique, justement, extraordinaire. Vous nous disiez là, pendant l'interruption, et Dieu sait qu'elle a été longue, là, aujourd'hui, vous nous disiez qu'au moment de la naissance du tsar Siméon, du roi Siméon de Bulgarie, votre père avait justement fait un dessin en hommage.
C'était... Oui, il avait décoré des photos et des félicitations avec des motifs bulgares.
Il y avait une grande ferveur finalement autour de cette famille. Et vous nous disiez, Bernard Lauric, le jour de la naissance de Siméon, on avait augmenté...
Toutes les notes des écoliers d'un point automatiquement.
Alors, évidemment, ça c'était à l'époque d'une indépendance qui, du fait du père de Siméon, Boris, a tourné à l'alliance avec les Allemands. Donc évidemment, une fois de plus, la Bulgarie sort vaincue du conflit. Les Russes ont envahi le pays, ont libéré, comme ça dépendra, oui, comme on voudra.
Ils sont entrés en libérateur.
Exactement, c'est en tout cas comme ça que ça a été présenté,
ça,
bien
voilà.
Sûr. Et vous avez connu, Sylvie Vartan, la période de cette période communiste en Bulgarie, avec une influence directe de Moscou.
Tout à fait, oui. Le pays était complètement verrouillé, évidemment, et puis la vie devenait de plus en plus insupportable pour la population. Il n'y avait rien à manger. Nous avions un appartement et des gens du gouvernement avaient été placés là, avaient pris possession de toutes les chambres. Nous étions relayés à une seule chambre que nous partagions. Et personne ne sortait de ce pays.
Est-ce qu'on peut dire, Bernard Laurie, qu'on est passé de la dictature monarchique de Boris à la dictature soviétique sous influence russe?
Tout à fait. Veut dire, la Bulgarie a toujours eu un gros problème de démocratie tout au long de son histoire. Mmh. Elle
C'est
va
vrai,
d'épisode
oui.
difficile à, en épisode C'est difficile.
Fou. Mais l'influence de Staline était terrible. Hein. Vous le racontez dans le livre à bien des égards.
Oui, le livre, c'est la vie de maman. Enfin, évidemment, moi, j'y suis présente, évidemment.
Bien sûr, oui.
Mais c'est un livre d'amour, certes, mais en même temps, c'est un livre historique. Parce que ma mère a été une femme du siècle. Elle a traversé la Première Guerre mondiale, la Deuxième, avec les Allemands, justement, et l'influence des nazis, avec la persécution. Et
vous racontez
justement,
tout ça, bien sûr. Oui. Et vous dites que lorsqu'elle est arrivée à Paris, elle a écrit. Et vous êtes tombé sur quelques pages qu'elle avait écrites.
Oui, il y a très peu de temps, en fait. C'est en cherchant des documents pour illustrer son livre que je suis tombée sur un grand cahier. Et j'étais très étonnée et très émue de, d'y trouver 15 pages manuscrites sur notre arrivée à Paris, en fait. Mais je connaissais toute l'histoire, puis je l'ai vécue en même temps.
Oui, mais là, vous l'avez vu à travers le regard de votre mère. Oui. C'est très émouvant, forcément. Je me pique au jeu des bonbons de l'oncle Staline dans la cour de l'école, écrivez-vous. C'est une petite fête que les professeurs organisent une fois par semaine. On nous réunit et on nous demande de prier le bon Dieu pour avoir des bonbons. C'est un peu bizarre parce que nous n'avons pas l'habitude de prier à l'école. Malgré tout, nous nous y appliquons. À la fin, nous levons les yeux au ciel, plein d'espoir, mais aucun bonbon ne tombe. Alors les professeurs nous demandent de prier l'oncle Staline. Et cette fois, la prière à peine terminée, une pluie de bonbons s'abat sur nous. Nous applaudissons et nous courons dans tous les sens pour les ramasser. Et vous ajoutez, oncle Staline, dont j'ignorais l'existence quelques mois plus tôt, est désormais partout. À l'école, dans la rue, chez les commerçants. Sa moustache et son bon sourire de paysan m'inspirent des sentiments ambivalents, en dépit des bonbons, car j'ai surpris un jour un éclair de frayeur dans les yeux de maman, tandis qu'il était question de lui. Elle demandait à mon père s'il avait bien accroché son portrait à notre fenêtre. « Pas encore, » a dit papa. « Georges, fais le vide, voyons, tu sais bien. » Le regard de ma mère, comme si tout l'immeuble risquait de s'effondrer d'un instant à l'autre. « Pardonne-moi, je vais le faire tout de suite, » a dit mon père. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai vu qu'oncle Staline était à toutes les fenêtres et trouvé rassurant qu'il soit également à la nôtre.
C'est vrai, tout ça est tellement marqué dans ma mémoire. Parce qu'en fait, quand on est enfant, c'est au niveau des sens et c'est très épidermique ce que l'on ressent et on comprend tout en fait. Évidemment pas dans les détails, mais moi j'avais les yeux fixés sur ceux de ma mère en permanence, essayant de deviner et d'attraper la moindre anxiété, parce qu'évidemment on parlait à mi-voix, on m'avait prévenu qu'il ne fallait absolument pas parler aux gens qui avaient pris possession de l'appartement, que mon père avait demandé des papiers pour sortir, pour aller vers la France, et que nous les attendions. Et donc j'allais avec ma mère faire les queues devant les magasins vides pour 100 grammes d'huile, et on mangeait de la soupe à la farine. Enfin, je sentais bien que c'était pas le bonheur.
Et vous participiez à votre corps défendant, mais la petite fille que vous étiez a participé à un certain nombre de cérémonies du régime. Vous vous rappelez notamment les obsèques de Dimitrov. Peut-être expliquer qui était Dimitrov en deux mots.
C'était le président de la Bulgarie. Il était secrétaire général, du Parti communiste. Il était placé par Staline, effectivement. Et paraît-il que c'est lui qui l'a quand même éliminé.
Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là.
Ah bon?
Dimitrov a été un soutien de Staline très fidèle. Il lui avait confié la gestion du Comintern de 1934 à 1943. Donc c'était quand même le numéro 2 du mouvement communiste mondial.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les Bulgares ont à l'égard des Russes soviétiques une attitude ambivalente, parce qu'on n'arrive pas à être opposé aux Russes quand on est Bulgare. Ce sont eux qui ont sauvé le pays du joug ottoman, somme toute. Il y a une forme de solidarité slave.
C'est tout à fait exact, alors que dans d'autres pays de l'Est, il y a une vieille tradition de détestation des Russes qui s'accumule avec la détestation du communisme. En Bulgarie, les deux sentiments s'équilibrent davantage.
Mais vous avez le sentiment d'avoir été quand même très opprimé, Sylvie Vartan.
Nous n'étions pas les seuls.
Oui,
vous savez, les gens se sauvaient sous les trains quand même, au risque de leur vie quand même. Et quand on est arrivé à la frontière bulgaro-yougoslave, le train s'est arrêté, nous étions les seuls dans le train, dans un compartiment de troisième classe, et on a séparé mon père et mon frère. Et nous sommes restés avec ma mère toute seule. La milice est montée, on commençait à fouiller. On est resté quand même 2 heures avec le train arrêté. Et l'angoisse de ma mère se demandant si mon père allait revenir. Parce que les disparitions étaient quotidiennes à Sofia. Et on ne savait pas pourquoi. Leurs amis, certaines personnes avaient disparu. Si on allait demander des nouvelles, tout le monde disait que non, on n'en savait rien. Moi, j'ai quand même appris des hymnes à la gloire de Mao Tse-Tung, quand même.
Ah oui,
il faut le faire.
Oui, à l'époque de l'entente des Russes et des Chinois, duré très longtemps.
Et le peuple crevait de faim en même temps. Et puis, on faisait les manifestations avec les petits foulards rouges. On allait...
Racontez le petit foulard rouge que votre mère vous attache très, très très gentiment autour du cou, néanmoins, comme si
pas elle tellement essaie, le choix.
Elle essaie de vous.
Ça s'appelle les petits.
De vous préserver en fait.
Septembrichta. Comment ça, on traduirait ça, les petits enfants
de la révolution
de la révolution de septembre, puisque les Russes sont arrivés en Bulgarie le 9 septembre. Oui. Donc il y avait des grandes manifestations et des processions comme on voit souvent en Russie aussi, et tous les enfants défilaient avec leur petit foulard rouge, et le jour où Dimitrov était mort, nous avons dû nous incliner devant sa sépulture qui était sous un socle de verre, oui. etc. Et je me souviens qu'il y avait des agitateurs qui passaient dans les rangs, les gens qui n'applaudissaient pas, dont ma mère, elle avait quand même reçu un petit appel.
Oui, c'est quand on vous poussait avec un bâton, c'est ça l'idée?
Voilà, en disant, voilà, camarade, vous devez applaudir. Hein. Ouais. Moi, j'étais à hauteur, donc je le voyais bien. Donc tout ça ne vous amène pas à avoir une grande confiance, et on se demande ce qui se passe quand même. C'est...
On n'aura pas le temps aujourd'hui d'évoquer tout ce qui s'est passé depuis la chute de l'Empire soviétique. Ce qui est certain, c'est qu'on a vu le nationalisme progresser en Bulgarie à mesure que cet empire soviétique perdait de son influence. Et ensuite, eh bien, le roi dont je parlais tout à l'heure est même devenu Premier ministre. Enfin, ce serait long d'expliquer tout ça, Bernard Lory.
C'est effectivement un paradoxe. Oui. Mais on peut noter que 1976, qui marque le 100e anniversaire de l'insurrection dont nous avons parlé, est aussi le déclenchement d'une nouvelle vague de nationalisme en Bulgarie, où on met en avant l'histoire nationale beaucoup plus qu'une histoire de classe ou de communisme.
Vous êtes retournée en Bulgarie, Sylvie Vartan?
Oui, j'y suis retournée après la chute du mur de Berlin. J'y ai chanté, j'ai donné un seul concert unique. Et puis, ensuite, je suis restée 12 jours et ça a été filmé. Et si vous voulez, les deux étaient savamment mélangés entre le concert, la réaction des gens, et puis aussi la vie des Bulgares que j'ai retrouvés après les 70 ans de communisme. Rien n'avait changé. Les magasins étaient rien.
Tout était comme vitrifié, en fait.
Vitrifié, mais... Le peuple avait cet espoir et on le sentait très fortement. Ils étaient tous portés par cet espoir et cette envie de retrouver une certaine autonomie, une fois de plus, je dirais.
Ouais, pas sûr que cet espoir ait été satisfait.
Oui,
enfin, Sylvie Vartan, Maman, voilà un titre tout simple pour un ouvrage très fort, très direct, comme vous. Cet ouvrage est publié chez IXO. Et puis, je vous rappelle, parmi les publications de Bernard Lory, son Europe balkanique de 1945 à nos jours. C'est aux éditions Ellipse. Merci à vous deux.
Dans un instant sur Europe 1, à l'occasion de la Nuit des Molières qui aura lieu ce soir sur France 2 en partenariat avec Europe 1, Franck Ferrand vous donnera les origines des expressions côté cour et côté jardin.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec une question d'Enora aujourd'hui sur Twitter avec le hashtag ACDH, les origines des expressions côté cour et côté jardin.
Oui, il faut aller très vite car nous sommes quasiment arrivés à 15h. Alors, ça remonte à 1784, on est en train de répéter le mariage de Figaro de Beaumarchais, c'est la Comédie française à qui on a prêté la salle des Tuileries. Et quand on est dans cette salle des Tuileries et qu'on regarde la scène, vous avez à votre gauche le jardin des Tuileries et à votre droite la cour des Tuileries. Eh bien, le metteur en scène de l'époque dont on n'a pas retenu le nom a décidé d'appeler ainsi le côté bâbord et le côté tribord. C'était plus simple. Désormais, systématiquement, on parlera du côté cour et du côté jardin.